Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les Dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous voilà dans ce mystère de la Trinité à parler de la troisième personne, l'Esprit, l'Esprit Saint. Il y a ceux qui évoquent l'Esprit Saint, qui s'en remettent à l'Esprit Saint, qui appellent l'Esprit Saint d'une façon qui a l'air presque très banalisée des fois, mon regard. Et puis
on passe d'un extrême à l'autre parce que il y a quelque temps encore, on disait le Dieu inconnu des chrétiens, le Saint-Esprit. Vous vous souvenez, Mauriac,
oui,
dans une allocution célèbre, disait le Saint-Esprit, ce Dieu inconnu. On est passé avec le renouveau charismatique à une effusion du Saint-Esprit, à une sorte d'accentuation de la présence du Saint-Esprit. Il y a un côté positif.
Oui, bien sûr. Mais des fois, on a ce regard sur ceux qui vont prier, demander l'Esprit Saint. Je me dis, mais on l'a reçu, l'Esprit Saint. C'est surtout demander que Dieu nous rende réceptifs à l'Esprit Saint qui en nous agit.
Exactement. Et il ne faut jamais les séparer. Souvenons-nous, non seulement notre Seigneur demande de baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous le disions dans une émission précédente à propos du mystère trinitaire, cette importance du nom unique en trois personnes, mais saint Paul lui-même, quand il finit par exemple sa deuxième épître aux Corinthiens, il dira « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et sous-entendu c'est Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous ». Le but c'est bien cette communion dans le mystère trinitaire et cette communion qu'il réalise entre nous par le fait que nous sommes liés grâce à ce mystère trinitaire par le baptême que nous avons reçu qui nous lie d'une manière ecclésiale. C'est l'Église qui est la fin de toute chose pour nous, ici-bas.
En tout cas, pour ceux qui effectivement seraient à penser que l'Esprit Saint est un Dieu inconnu, en tout cas tellement difficile à cerner, finalement, je ne sais pas si le Père est plus facile à cerner, du reste.
Hein. Et même notre Seigneur Jésus-Christ.
Non, mais quand bien même on aurait plus de mal qu'avec les autres à le cerner, l'Esprit-Saint, pour nous, se révèle par les résultats, j'ai envie de dire, de l'œuvre de l'Esprit en nous, par les actes posés, par l'expérience, la réception que nous allons faire de la Bible comme parole de Dieu, l'inspiration qu'on va pouvoir repérer dans notre façon de parler, quand on prêche par exemple, ou pour n'importe quel chrétien, quand il parle de Dieu, c'est l'Esprit qui parle en lui, qui prie en lui.
L'Esprit prie en nous et c'est vrai que sans cesse, il est là, il est présent en nous, il est présent à toute l'incarnation. Nous parlions à propos du mystère trinitaire des appropriations. Eh bien, on approprie l'incarnation elle-même au Saint-Esprit, c'est-à-dire on comprend que c'est par l'opération du Saint-Esprit que la Vierge Marie a conçu en son sein le Verbe fait chair. Et donc le Saint-Esprit, eh bien, on le voit dans les évangiles, il est tout le temps à l'œuvre. Alors il y a un moment quand même où Jésus nous en parle plus explicitement, où il l'annonce comme une effusion à venir, comme un don à venir, et c'est dans les grands chapitres qui précèdent sa passion dans l'évangile de saint Jean. Il est important de bien voir que Jésus donc le distingue de son propre esprit humain, et il le distingue du Père. Sinon, ses paroles auraient conduit à une confusion s'il avait parlé d'une manière indistincte du Père, du Saint-Esprit ou de son propre esprit. Ça prouve bien qu'il y avait une finalité de nous révéler quelque chose. Or, Jésus le fait d'une manière très nette lorsqu'il dit « Tandis que je demeurerai parmi vous », mais le Paraclet, et il l'appelle d'un autre nom, le Saint-Esprit, c'est en Jean chapitre 14, verset 26, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, il a fait lui-même une distinction très forte entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas facultatif, c'est pas optionnel, c'est pas comme si Dieu aurait pris un jour un masque comme au théâtre, de temps en temps on apparaît sous un jour et puis sous un autre, et les Grecs dans l'Antiquité aimaient bien ce genre de théâtre dans lequel on mettait un masque devant, et d'ailleurs on l'appelait prosopone, persona, pour exprimer les différents rôles que l'on pouvait jouer au moment où l'on apparaissait.
Mais persona, le son qui passe au travers.
Le son qui passe au travers, exactement, au travers du masque. Or, Dieu n'est pas un masque où il serait de temps en temps comme un Père, de temps en temps comme un Fils, de temps en temps comme un Saint-Esprit. Nous croyons à trois personnes distinctes, c'est très important, même si nous affirmons
chacune
l'unité de Dieu.
Chacune son masque.
Alors, oui, mais alors là...
c'est mauvais.
Oui, ce serait mauvais de dire ça, parce que du coup, on retomberait dans ce qu'on appelle le sabellianisme, le modalisme, où Dieu, finalement, on pourrait s'entendre avec tous les courants monothéistes qui n'affirment qu'un seul Dieu, mais sans distinction de personne. Nous affirmons un seul Dieu, mais avec une révélation de l'intimité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Jésus ne se contente pas de le faire une fois, il le fait trois fois dans cet évangile de Saint Jean, où il rappelle que le Saint-Esprit doit être attendu, que ce Saint-Esprit est tout proche d'être donné, et que nos cœurs, les cœurs des disciples, doivent se préparer. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Et là encore, c'est une manifestation trinitaire, vous voyez, c'est Jésus qui parle, une personne de la Trinité, il évoque le Père, la personne source, je dirais, fonds, c'est l'origine de toute la Trinité, le Père, et en même temps, le Saint-Esprit qui vient comme en troisième. Et c'est Jésus lui-même, d'une certaine manière, qui oriente notre contemplation du mystère trinitaire, en commençant par sa relation de fils par rapport au Père, et il en vient ensuite au Saint-Esprit. Et un petit peu plus bas, une troisième fois encore, il nous dit, à propos du Saint-Esprit, cette chose très belle, « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même. » Voilà le texte que nous cherchions tout à l'heure. « Et il vous, lui me glorifiera. » Il vous dévoilera les choses même à venir, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous dévoilera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous le dévoilera. Tout ce qu'a le Père est à moi, voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera. Et ainsi, on a le fondement du pourquoi du filioque, ce qui est quand même très important à comprendre ici, parce que si le Père a tout donné au Fils, il ne pouvait pas donner le fait d'engendrer. Sinon, le Fils n'aurait pas été distinct du Père. Dieu pouvait, le Père, donner tout au Fils, sauf l'engendrement. Mais la procession du Saint-Esprit, selon la tradition latine, Dieu a pu la donner, puisqu'il a tout donné. Nous avons là le fondement du mystère, de ce que nous appelons dans la tradition latine, qui remonte à saint Damas, qui remonte à saint Ambroise, saint Augustin, saint Léon le Grand, et même il y a déjà des accents qui préparent chez saint Athanase et saint Cyril d'Alexandrie, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, du Père comme source, dit saint Augustin, mais aussi du Fils à cause de cette datio, de cette donation que le Père fait de tout lui-même, y compris le fait de spirer, de faire que le Saint-Esprit procède de lui.
Donc procéder, il faut peut-être bien le préciser, alors le catéchisme dit « L'Église reconnaît par là le Père comme la source et l'origine de toute la divinité ». Donc tu dis une datio, le don de la divinité.
Oui, le don de la divinité, mais même, je dirais, de ce qu'il peut donner, y compris donc l'aspiration du Saint-Esprit, qui est donnée tout en restant la source. Il donne la possibilité au Fils d'être avec lui. Il y a d'ailleurs
ce qui nous fait tenir donc dans notre credo, l'Esprit
qui procède du Père et du Fils. Exactement. Alors ça a été assez long à mettre en place, Mais c'est vrai qu'on comprend qu'il y a eu certaines réticences par rapport à cette tradition du credo. Il n'empêche que nous la tenons, je dirais, à bon escient, comme dit le catéchisme de l'Église catholique. L'usage de cette formule dans le credo a été peu à peu admis dans la liturgie latine entre le 8e et le 11e siècle. L'introduction du filioque dans le symbole de Nicée-Constantinople par la liturgie latine constitue cependant aujourd'hui encore un différend avec les églises dites orthodoxes, mais on est assez, je dirais, tranquille dans la mesure où elle s'appuie sur une tradition, je dirais, immémoriale et soutenue par les papes qui ont un charisme pétrinien pour dire la vérité dans une assistance du Saint-Esprit qui va jusqu'à l'infaillibilité. Et nous avons de ce point de vue-là un roc très fort que Pierre gouverne et que Pierre s'exprime, que Pierre a dit et que Pierre ne peut pas avoir failli sur un objet de foi aussi fondamental.
Cet ajout du filioque, il procède du Père et du Fils. Donc tu dis ça appartient à des fondements théologiques qui sont pas tellement réfutables finalement, mais c'est l'histoire aussi qui a dû faire ça, c'est-à-dire que c'est un peu politique également, un changement qui est fait d'un côté de l'Église qui se serait fait sans l'autre côté, non ?
Alors moi je ne dirais pas ça, je dirais qu'il y a quand même des éléments tellement forts, je dirais, qu'il faut reconnaître les lenteurs des uns et des autres. C'est surtout cela, c'est du côté de la charité. Quand quelqu'un est plus lent à découvrir un mystère, il faut lui laisser le temps pour y adhérer. Peut-être qu'on a manqué dans la charité. C'est plutôt du côté de la charité. Moi, je crois que les difficultés sont venues de même. On a la position très tardive du 9e siècle sous le patriarche Faustus vis-à-vis des latins, au point de les excommunier, au point de dire que le verbe procéder ne pouvait jamais venir que d'un principe, alors que nous savons très bien dans l'Apocalypse que le trône de Dieu sur lequel est l'agneau, il y a cette procession du fleuve de vie, et les pères ont toujours vu le Saint-Esprit qui procédait donc du trône, le Père, et de l'agneau, le Fils.